I think it's time to blow this scene. Get it.
Donc, d'une part, deux invités d'exception.
Okay,
Alexandre,
three,
et
two,
deux ados incognito qui découvrent la radio.
Et derrière nos micros, nous allons tenir des propos de haut niveau. Des sujets perso parfois rigolos, mais toujours originaux.
Alors, installez-vous avec votre cappuccino,
votre expresso, votre chocolat chaud et ses cadeaux. Attention, on devient vite accro. Alexandre, dans quelques instants, tu vas pouvoir nous présenter ta chronique, mais avant tout, les auditeurs aimeraient te connaître un petit peu plus. Alors, qui es-tu? D'où viens-tu? Quel âge as-tu?
Alors, je m'appelle Alexandre.
J'ai actuellement 16 ans. Je travaille au lycée Raymond Coppa, à Isère, pour ceux qui connaissent.
Mmh, très bien, et tu es passionné par la guerre, apparemment?
Je suis un très grand fan de toutes les guerres qui s'est passées. J'ai beaucoup appris sur différentes guerres. La première, l'entre-deux-guerres, la seconde, etc., etc.
Très bien. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de la dernière défense de Berlin. À toi de jouer.
La dernière défense de Berlin. 16 avril 1945 à Berlin. L'armée rouge entre dans Berlin avec 3 divisions tankistes et 2 500 000 soldats soviétiques, entrant dans Berlin. Dans ces 2 500 000 unités soviétiques, nous retrouvons 1 million d'hommes, 100 000 chars d'assaut, 7 500 avions, 6 250 chars et 41 600 pièces d'artillerie et 197 divisions soviétiques. Du côté des Allemands, nous retrouvons 50 divisions allemandes, 750 000 soldats, 1519 véhicules blindés, 2224 avions, 9303 pièces d'artillerie. Ensuite, je vais vous parler des trois divisions principales. Les divisions tankistes soviétiques de Joukov, Koniev et Tchoukov foncent sur les divisions allemandes qui protègent Berlin. Avec leur T-34 et les IS-2, l'URSS arrive à percer au début les défenses allemandes. Le problème qui se passe, c'est que les civils allemands se révoltent contre l'attaque soviétique. L'Allemagne a créé une division spécialement pour les civils. La division s'appelle, alors je vais dire le prénom, la division Volkssturm. La Volkssturm sont des civils fidèles au Reich. Ils défendent leur ville avec des Panzerfaust et des Panzerschreck. Pendant ce temps, la division Das Reich, connue pour ses nombreux énormes crimes de guerre,
Tu as quel âge? 12 ans? Et toi, 14 ans? Et toi, vous jouez à la guerre. Vous feriez mieux de rentrer chez vous, jouer à autre chose.
Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez?
Je ne veux pas que mon fils touche une arme.
Vous devriez être fier de ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a réussi à abattre 2 chars. Le Führer en personne va lui remettre une décoration.
Vous êtes tout jeune? Vous avez combattu sur quel front?
Je n'ai pas encore eu cet honneur.
C'est une grande chance de n'avoir connu encore aucun combat. Alors soyez sensés, s'il vous plaît. Renvoyez ces enfants chez eux.
Quoi qu'il arrive, nous avons l'intention de tenir cette position contre l'ennemi.
Quelle position? Ouvrez les yeux! Ce n'est pas une position, c'est un piège! Les Russes vont arriver des deux côtés et vous prendre en étau. Vous ne pourrez même pas vous enfuir!
On ne fuira pas, on leur tirera dessus.
Mais avec quoi?
On peut tirer avec les canons antiaériens.
Les Russes marchent sur Berlin avec plusieurs armées. Comment combattrez-vous leurs chars? Leur artillerie lourde? Vous êtes complètement fous si vous croyez tenir 5 minutes sous leur feu!
Nous avons promis au Führer que nous le ferions.
Enfin, vous ne comprenez pas, c'est fini, nous sommes vaincus, c'est la fin du Reich.
Hein, espèce de lâche.
Actuellement, pendant ce temps, la division Das Reich, connue pour ses nombres énormes de crimes de guerre, passe en mode survie. Ce qui veut dire qu'elle abandonne tous ses postes de défense. Pendant l'avancement des Américains en France, la Das Reich a l'autorisation de Heinrich Himmler de passer en mode défensif. Ils ont dû abattre énormément de leurs camarades pour tenter de fuir les positions qu'ils avaient. Les Américains et les Anglais sont en avance comparé à l'Union soviétique en France. L'objectif de l'Union soviétique était à la base de capturer l'Allemagne entière et capturer la France avec. Le problème, c'est que les Américains sont rentrés dans la guerre et ce qui a permis aux Américains, Anglais et résistants français d'avancer. Le problème, c'est qu'à Berlin, le chancelier ne peut pas sortir de son bunker. Pour quelle raison ? Car déjà, depuis l'échec de Stalingrad, le chancelier allemand n'a tout juste simplement eu peur de sortir de son bunker. Maintenant, je vais vous parler d'une autre chose qui s'est passée pendant la bataille de Berlin. Arrivé à Berlin, une mini-bataille entre la Das Reich et la Leibstandarte se fait, ce qui provoqua la mort de 10 soldats de la Das Reich et 5 morts de la soldat de la Leibstandarte. Pour ceux qui ne savent pas, la Leibstandarte est la toute première division allemande de l'unité d'élite de l'Allemagne, la Schutzstaffel. C'est l'unité qui s'occupe de la protection du chancelier. Dans cette division, on retrouve tout ce qui est les divisions anti-char, les divisions d'infanterie, la division de la garde rapprochée. Pendant ce temps, les divisions allemandes montrent sans une défense remarquable aux soviétiques pendant les rapports. Les soviétiques rapportent à leurs généraux. Les généraux reçoivent les rapports environ 10 à 15 minutes plus tard. Sur les rapports, nous remarquons que les Allemands sont entraînés parfaitement contre leur attaque. Les attaques brutales de l'URSS feront reculer les Allemands vers le Reichstag. Une division franco-allemande défend le Reichstag avec le reste des divisions. La division franco-allemande en question se nomme la les volontaires français et la Charlemagne. Les généraux allemands supplient leur chef d'arrêter la guerre et de se rendre. Et leur chef leur dit « Je refuse de me rendre à l'ennemi, je préfère mourir que me rendre ».
T'en suffira. Et ensuite, la paix éternelle. Épargnez au moins le peuple, mon Führer. Je ne verserai aucune larme sur le sort du peuple allemand s'il se révélait incapable de survivre à cette épreuve. Il n'aurait que ce qu'il mérite. Car voyez-vous, il s'est choisi son destin en connaissance de cause et tant pis s'il n'en réchappe pas.
Lorsque l'URSS envahit Berlin, les généraux allemands ne savent plus donner d'ordre. Comme nous en pouvons entendre, le chancelier reçoit l'ordre des généraux de capituler. Cependant, le chancelier ne veut pas capituler parce qu'il pense que l'Allemagne peut se relever de cette énorme défaite. L'Allemagne a perdu la guerre d'avance. Pourquoi ? Parce que déjà le chancelier n'a pas pu gérer ses hommes des deux fronts. Il a décidé de trahir l'URSS qui était une puissance plus haute que lui. Le problème, c'est qu'avec les Américains qui sont rentrés dans la guerre, ce qui a permis aux Américains et aux Soviétiques de faire une alliance temporaire pour combattre l'Allemagne. Pendant ce temps, à quelques mètres dans le sol où se trouve le dernier membre du parti du chef allemand, les disciples du chancelier lui ordonnent d'arrêter la guerre. Ils l'ont déjà perdu. Ce problème, c'est que nous allons apprendre dans quelques instants le chancelier va ordonner aux hommes de la Schutzstaffel d'éliminer les derniers membres du parti qui sont à l'extérieur du bunker. Ce qui veut dire tous les membres du parti qui ont voulu trahir l'Allemagne. Nous allons pouvoir aussi retrouver beaucoup de soldats allemands tuant des civils pour les raisons qui ne sont tout à fait bidons. Les raisons suivantes sont haute trahison et tente aussi de vouloir se rendre à l'ennemi. Nous allons pouvoir aussi apprendre grâce au rapport qu'environ une dizaine de civils sont éliminés le soir pour aucune raison. Quelques temps après le discours du chancelier, à la radio nous apprenons la mort du chancelier dans son bunker en Allemagne. L'Allemagne capitule à Reims le 7 mai 1945 à 2h du matin, ce qui donnera le traité de paix à Reims. Le traité de paix se fait actuellement dans le lycée Roosevelt.
Super, merci beaucoup Alexandre pour ta chronique. Je pense que nous avons tous appris beaucoup de choses aujourd'hui. Désormais, il est temps pour nous d'apprendre à connaître Noé. Alors Noé, peux-tu te présenter aux auditeurs, s'il te plaît ?
Je m'appelle Noé, j'ai 13 ans depuis aujourd'hui et je suis un vrai passionné de manga.
Stop. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Noé, joyeux anniversaire. Bon ben, happy birthday Noé, donc tu as 13 ans depuis aujourd'hui, je te laisse continuer.
Du coup je disais, je suis un vrai passionné de manga et ma chronique va porter sur le thème d'un manga du nom de The Seven Deadly Sins.
D'accord, bah écoute Noé, c'est à toi de jouer, on t'écoute.
Seven Deadly Sins, c'est une œuvre de Nakaba Suzuki. Je vais vous lire le synopsis. Il y a 10 ans, un groupe de chevaliers sacrés renégats appelés les Seven Deadly Sins s'est rebellé contre les chevaliers sacrés, la garde du royaume. Depuis, ils ont disparu et personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Le personnage principal de cette œuvre s'appelle Meliodas. Tout au long de l'aventure, Meliodas va revoir peu à peu les membres de son organisation. Celle-ci est composée de 7 membres. Meliodas, le dragon de la colère, qui est le chef, Ban, le renard de l'avarice, Diane, le serpent de l'envie, King, le grizzly de la paresse, Merlin, le sanglier de la gourmandise, Gozer, le bélier de la luxure, et Escanor, le lion de l'orgueil. Il y a également 2 membres, qui s'appelle Elisabeth, c'est la femme de Meliodas, et un cochon qui peut parler, qui se nomme Hawk. Meliodas est à la base le fils du roi du clan des...
ギルサンダー様、ご無事ですか？ d'après l'extrait que vous venez d'écouter.
Lequel de ces trois personnages est en train de stopper la lance? Vous avez trois possibilités de réponse. Réponse A, Meliodas. Réponse B, Ban. Réponse C, Escanor.
Alexandre, à ton avis?
Ben c'est perdu, c'était la réponse A malheureusement. Bien joué à toutes ces et seules qui ont trouvé. Du coup, on va continuer. Meliodas est à la base le fils du roi du clan des démons, censé le succéder. Mais Meliodas, renonçant à son côté démon, et décida d'aller aider les humains pour la lutte de la guerre sainte. La guerre sainte, c'est une guerre qui se faisait entre le clan des démons et le clan du paradis comme le chef, la divinité suprême. Donc, il lutte de la guerre 5 contre les 10 commandements qui font partie du clan des démons. Leur nom est Deridéri de la chasteté, Frodrine de l'altruisme, Galan de la vérité, Gloxinia du sabbat, Greylord de la miséricorde, Meraskila de la foi, Montspeed du silence et Estarossa de la charité. Ban est le bras droit du chef, il a bu l'eau de la fontaine de Jouvence et sera donc immortel lors des trois premières saisons. Il perdit son immortalité pour ressusciter sa bien-aimée nommée Hélène. Diane est une géante faisant partie de du clan des plus grands guerriers. Diane fut forcée à combattre sans en avoir l'attention jusqu'au moment où elle rejoignit les Seven Deadly Sins. King est le roi des fées, sa sœur est l'épouse de Ban. Gozer est une poupée qui manipule la magie psychique. Merlin est une sorcière dotée de pouvoirs magiques. Escanor est le membre le plus fort de l'histoire après Meliodas. Il manipule la grâce du soleil.
ありったけの魔力をあんたのをぶち込んで大丈夫さ私は奴より頑丈だから
以前の俺ならそう言ってたなフルカウンター
Merci beaucoup Noé, j'ai quelques petites questions à te poser si
je
tu le veux bien.
Alors,
dans un premier temps, j'aimerais savoir d'où te vient cette passion pour les mangas.
Alors, comme beaucoup de gens, pour ceux qui connaissent les mangas, j'ai commencé par Naruto. C'était un jour, j'étais allée dans un magasin, c'était Cultura, et j'étais en train de regarder les livres. Puis je suis tombée sur une catégorie de mangas, la première fois que j'en ai ouvert un, je me suis dit, mais c'est pas normal, c'est à l'envers ce livre. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était le sens de lecture originale qui vient du Japon. Et j'ai donc acheté le premier à ce moment-là. Je l'ai lu et vu que j'aimais bien les bandes dessinées à cette époque, je me suis dit, pourquoi pas continuer d'en acheter vu que c'est encore mieux qu'une bande dessinée.
D'accord. Et donc, tu as lu tous les Naruto qui existent, j'imagine.
Pas tous, mais
il y en a beaucoup.
Une bonne partie.
D'accord. Il y en a beaucoup de Naruto
Pas mal, ouais, quand même.
D'accord. Et donc, tu as à moitié répondu à ma deuxième question, mais tu préfères les mangas en livre ou en version vidéo?
Alors, c'est très dur de répondre à ça, car les deux ont des fois des scènes qui ne se passent pas dans l'un ou dans l'autre, mais en vidéo, c'est très très bien, et quand c'est identique au manga, c'est encore mieux, en fait.
D'accord, donc toi, tu regardes et tu lis, tu fais les deux, en fait.
Si on veut aller plus vite, c'est mieux de le lire, mais si on veut prendre notre temps et bien apprécier ce qu'on est en train de regarder, vaut mieux regarder en animé.
D'accord, merci pour l'astuce. Et donc, ma dernière question, Noé, j'aimerais que tu puisses nous conseiller un manga pour nous qui ne connaissons pas forcément ce genre de livre et ce genre de vidéo.
Ça peut dépendre de tout parce que ça dépend si vous voulez un manga de romance, de combat, d'enquête.
Pour toi, celui qui est le plus accessible pour tous.
Pour tout le monde, je dirais un grand classique, Naruto, si vous voulez du combat, de l'humour. Ou alors, vous pouvez commencer par One Piece. Beaucoup d'aventures, beaucoup d'épisodes, mais c'est très bien.
Ok, bah c'est noté. Merci beaucoup, Noé. Alors, Bande de Woofs, c'est fini pour aujourd'hui. Nous avons tout de même tous une pensée pour Émilie qui est en cours actuellement, donc qui n'a pas pu se libérer. Elle sera présente avec nous mercredi 13 mars pour notre troisième émission. D'ici là, portez-vous bien. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.